Bonjour, bonjour à chacun. C'est vrai, privilège de pouvoir honorer ensemble le Seigneur, de pouvoir nous attendre à lui, à ce qu'il nous parle ce matin. Pour ceux qui nous rejoignent ce matin, ça fait quelques dimanches en arrière qu'on évoque ce sujet du rapport entre le chrétien et son prochain, avec l'autre. Dimanche dernier, dans notre parcours de la lettre de 1 Corinthiens, on a vu que Dieu nous dit, bien qu'on dispose de saints droits, par amour pour les autres, par amour pour l'Évangile, par amour pour le message de l'Évangile, je peux être amené d'y renoncer. J'ai des droits, mais je dois probablement, pour le bien de l'autre, y renoncer. On peut le dire autrement, je me restreins, y compris peut-être dans ma liberté, pour le bien des autres. Renoncer pour le bien de l'autre. Alors ce matin, c'est encore un hors-série, on va pas rester dans Corinthiens, parce que vous l'avez peut-être remarqué, en France, ce matin, enfin aujourd'hui, c'est une journée spéciale, un moment dans notre calendrier, où nous sommes invités à rendre hommage à nos grands-mères. Rendre hommage à nos grands-mères. Et cette semaine, j'ai regardé l'origine et j'ai été très surpris. En fait, c'est tout récent. Les années 87. 1987, sous l'initiative des cafés grand-mères. C'était commercial. C'est devenu une occasion, c'est vrai, de montrer notre gratitude, de montrer qu'elle compte pour nous. Mais est-ce qu'on devrait se limiter en tant que chrétien, en ayant en tête ce qu'on vient de voir les semaines passées, nous limiter à une fête ou à offrir des fleurs ou une carte? En fait, ce matin, j'aimerais profiter de cette occasion pour nous questionner et de regarder l'un des enseignements que Dieu donne et qui doit résonner en tant que chrétien. Et de cette interaction que nous sommes appelés en tant que disciples du Seigneur à avoir avec notre prochain, avec les autres, avec nos parents, avec, et par ricochet, on pourrait dire, nos grands-parents. Nous allons voir que les honorer, c'est aussi honorer Dieu lui-même. Pour cela, on va aller dans Exode. Pour être précis, dans Exode 20, c'est un livre extraordinaire, incroyable, je trouve, et on le parcourt en groupe de maison. Alors c'est pas pour faire de la pub, mais vraiment, on est richement béni de parcourir ce livre où Dieu nous parle du peuple d'Israël qui est libéré de l'esclavage. Et dans ce livre où Dieu montre comment aimer, comment vivre en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que peuple libre. Littéralement, ils sont libres et Dieu va leur montrer comment vivre. Et on va aller précisément dans les 10 commandements, hein, le décalogue très connu, on le connaît tout. Peut-être le passage le plus connu dans le monde, y compris en Occident, où je crois que beaucoup de nos valeurs des droits de l'homme sont issues aussi de ces principes. Mais Dieu leur a donné ces commandements pour montrer comment marcher dans cette liberté que vous avez maintenant. On va se dire, mais commandements et liberté, ça va pas trop ensemble. Mais en fait, Dieu, voilà, on va le voir. En tout cas, je prie que Dieu nous parle, que Dieu te parle ce matin. C'est notre désir, hein, on l'a chanté. Que nous puissions repartir inspirés, encouragés, interpellés. Avec ce désir toujours renouvelé de mettre en application ce soin tellement précieux que Dieu nous demande d'avoir les uns avec les autres. Alors, je suis conscient qu'on aborde un sujet qui peut être chaud, compliqué pour plusieurs. On touche une corde sensible de parler des parents. Du 5e commandement, hein, honorer ton père et ta mère. On vit dans un monde brisé par le péché, nos vies sont affectées par le péché, on a tous des histoires personnelles différentes, des histoires familiales. Certains d'entre nous n'avons plus nos parents, ou l'un de nos deux parents, on n'a plus de grands-parents. Pourtant, pour certains, ça peut être un sujet sensible parce que on n'a pas toujours eu de bonnes relations dans nos familles. Avec ceux qui nous ont précédés ou qui nous précèdent, parfois c'est dans l'autre sens aussi avec nos enfants et nos petits-enfants. Mais, et je crois que c'est ce qu'il faut aussi se rappeler ce matin, c'est qu'avec l'Évangile, avec l'œuvre du Seigneur, notre histoire passée, notre histoire présente, ne doit pas définir ce qu'elle sera demain. Parce que vous décidez de vous confier en Dieu. Vous cherchez à l'honorer par sa parole dans vos relations. De voir l'autre différemment. Et je crois que c'est toute l'exhortation de l'apôtre Paul et de bien d'autres de prendre soin de son prochain. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir à ce commandement et je vous propose d'aller d'abord dans la prière avant d'écouter la lecture. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes ce matin de t'écouter, parce qu'on est là, parce qu'on veut t'honorer, parce qu'on veut t'écouter, parce que tu as des choses à nous dire. Et merci parce que nous avons ce Saint-Esprit qui fait aussi ce filtre, qui nous éclaire, qui nous montre ces recoins de nos cœurs qui ont besoin d'être façonnés par toi, qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'être renouvelés. Seigneur, merci parce que nous voulons nous attendre à ta compassion, à tes bons conseils pour nous. Nous voulons prier pour chacun d'entre nous. On est tous dans des situations différentes, des générations différentes. Et tu veux nous parler, oui, et nous encourager. Seigneur, nous voulons penser à nos bien-aimés avec qui peut-être on est en froid, en difficulté. Nous voulons te les confier, ces relations qui sont pas évidentes, qui sont ternies par le péché, par la rupture, par les cassures, peut-être parfois par le deuil. Nous savons que tu es le Dieu de la restauration, le Dieu du pardon, le Dieu de la consolation, le Dieu du repos. Et c'est avec sévérité, avec ce bien précieux de savoir que tu es souverain, Seigneur, que nous voulons nous confier maintenant aussi à ta parole pour qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Amen. Beau simplement de lire les 17 premiers versets pour avoir le contexte. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, bien sûr à son peuple, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je pue la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint, consacré à Dieu, on pourrait dire. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en six jours, l'Éternel a fait la ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'y est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni à quoi que ce soit qui lui appartienne. Amen. Alors d'abord quelques observations un peu générales, c'est des rappels. Hein. Dans ces 10 commandements, on voit quoi? Les premiers commandements qui sont des commandements verticaux, en lien entre nous et Dieu. Puis les 6 suivants, c'est des commandements horizontaux, qui concerne nos relations avec les autres. Et le premier des horizontaux, vous l'avez vu, c'est celui du lien avec nos parents. Dieu commence avec le commencement. Ce que Dieu nous enseigne sur notre manière d'agir envers les autres, avec les gens autour de nous, part et est issu constamment de cette relation avec Dieu. En fait, c'est d'abord cette relation avec Dieu et qui impacte ces relations horizontales. Et on l'a vu les semaines passées. C'est parce que Dieu nous aime que nous sommes appelés à aimer. Et dans le christianisme, dans notre foi chrétienne, on ne peut pas séparer. On ne peut pas distinguer les uns des autres, l'un de l'autre. On ne peut pas dire, moi je suis près de Dieu, tout l'aspect spirituel, j'ai une relation profonde à Dieu, mais les gens autour de moi, ce n'est pas mon affaire. Pas comment Dieu ne voit pas les choses de cette façon-là. Non, dans la parole, tout commence avec Dieu et se concrétise dans les relations avec les autres autour de nous. Ces commandements verticaux impactent ceux qui sont horizontaux. Et c'est une première observation qu'on peut faire dans notre monde les scinde. On veut plus de Dieu, mais on veut chercher à vivre à conserver certains principes moraux, notamment de relation avec les autres. Mais cela n'a pas de sens et ça tient plus, et c'est pour cela que ces filoches, au fil du temps, dans le monde occidental, on se dit on veut pas de Dieu, mais alors après on sait plus comment vivre, parce que c'est quoi le guide pour vivre à l'horizontale. Et là, Dieu commence, il a expliqué, voilà, notre relation verticale, et notre première relation, c'est avec nos parents. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu commence avec nos parents? Parce que c'est notre première relation. Notre première relation, ce sont nos parents. Et cette première relation façonne toutes les autres, d'ailleurs. Elles ont un impact. Pourquoi Dieu nous parle de nos parents et de leur importance? Je propose cette réflexion, hein, nos relations avec nos parents, ce sont ceux qui nous ont donné la vie. Ceux qui nous ont vu vivre les premiers pas. Et cette relation de ceux qui nous ont donné la vie reflète cette relation avec Dieu qui nous a donné la vie, la vraie vie, la vie véritable. Vous l'avez vu hein, au début du chapitre, ça commence comme ça. Dieu commence là parce que notre relation commence avec sa vie qu'il nous a donnée. Et de la même façon, il nous dit, ben voilà, vous devez honorer ceux qui vous ont donné la vie. Je t'ai libéré, Dieu nous a libérés. Il est celui qui nous a donné la vie. Sa grâce est venue en premier. Et maintenant, je vous enseigne à marcher. Je vous donne des commandements de comment on vit en tant qu'homme et en tant que femme, libre, libéré de l'esclavage du péché. Il est le bienfaiteur. Je pense qu'il y a cette illustration filiale. Pourquoi ce premier commandement? Parce que nos parents nous ont donné la vie. Et dans le sens très réel, hein, c'est à eux qu'on leur doit tout. On n'a pas demandé de venir au monde. On n'a pas choisi de venir à la vie. Ce sont nos parents qui en sont à l'initiative, bien évidemment sous la souveraineté de Dieu. On leur doit tout. Et ça tombe de sens de commencer de parler des relations horizontales en parlant de cette première relation, ce lien parent-enfant. Alors je sais que dans ce monde, hein, c'est peut-être le lien qui est le plus contesté. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais dans plein d'endroits du monde, honorer ses parents, ça tombe sous le sens. Mais paradoxalement, dans notre civilisation dite judéo-chrétienne, avec ce bonheur personnel, cet individualisme, ce relativisme moral, les structures familiales complètement explosées, les divorces et les séparations, la critique et le refus de l'autorité, l'autonomie émotionnelle, voilà, toutes ces choses-là qu'on peut entendre, ben voilà, mettent à mal ce commandement de honorer nos parents. Pourtant, on fait le constat, hein, on grandit dans une famille stable, on détecte, on voit, quand on voit un étudiant, on voit quels ont été ses parents derrière. Quand vous avez un enfant, un employé modèle, par exemple, dans une boîte, il y a des valeurs qui remontent à ce qu'il a reçu dans son cercle familial. Ça, c'est beaucoup à nos parents qu'on doit un certain nombre de choses, de nos valeurs, de nos principes. Mais bien sûr, l'exception existe, hein, il y a des bons parents, des mauvais enfants, et inversement aussi, évidemment. Mais généralement, les choses fonctionnent ainsi. Alors, j'ai donné pour titre « Rends l'honneur à qui tu dois l'honneur. » Honorer père et mère. Voilà comment je résumerai la réflexion ce matin. La loi de Dieu nous aide à vivre en harmonie les uns avec les autres. Et l'un des principes essentiels est la reconnaissance. La loi de Dieu nous aide à vivre en harmonie les uns avec les autres. Et l'un des principes essentiels est la reconnaissance. Reconnaissance. Alors qu'est-ce que ce commandement révèle sur notre foi, sur notre spiritualité? Sois avec les hommes comme tu es avec Dieu. Je le disais tout à l'heure, hein, ta foi personnelle, tu ne la vis pas seule dans ton salon, dans ton intimité. Oui, ça se passe là avec ton Dieu, mais ça s'arrête par là. On n'a pas la liberté de nous déconnecter de notre relation avec Dieu, de notre relation avec les autres. Autour de nous. Notre foi, c'est du concret. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Jean. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, hein, c'est connu, alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer ses frères. L'amour de Dieu est en lien avec l'amour envers les autres. C'est peut-être plus facile d'aimer Dieu parce qu'on voit pas, que d'aimer les personnes qui sont autour de moi, qui m'ont fait du tort, ou qui n'ont pas fait tout le bien que j'attends des personnes. La manière dont j'ai agi avec les personnes cette semaine, dont je vais agir aujourd'hui, dit énormément de ma relation que j'ai avec Dieu. Les deux sont liés. Ça ne veut pas dire que cela soit simple, que ce soit facile. Mais ma relation avec les autres dit beaucoup de ma relation avec Dieu. Et honorer père et mère, c'est le fondement sur lequel est construit l'amour du prochain. C'est dans cette relation avec nos parents que va s'enseigner l'autorité. C'est dans cette relation-là qu'on va voir le respect, la question de l'obéissance. C'est auprès de nos parents que nous apprenons à vivre avec les autres. Parce que c'est dans ce cercle-là, autour de la table, autour des activités, qu'on apprend à vivre les uns avec les autres. Voyez-vous, ce passage nous dit que Dieu honore ceux qui honorent les hommes. Dieu honore ceux qui honorent les hommes. En commençant par nos parents. Je relis, hein, Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On lit le même principe dans le Nouveau Testament. C'est Paul qui dit, Éphésiens 6, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Paul prend le temps de souligner le même effet d'honorer ses parents que celui qu'on retrouve dans Exode. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de promettre? Est-ce qu'il est en train de promettre que si tu honores tes parents, tu ne mourras pas d'un cancer à 40 ans? Que parce que tu auras marqué 10 points de récompense, voilà, dans ton obéissance, et hop, une année de plus? Je crois pas que c'est vraiment l'idée que Dieu a en tête. Dans le passage d'Exode, et il faut le replacer dans le contexte, bien évidemment, on a une nation, un peuple qui est en train d'être établi, qui va entrer dans la terre promise. Et Dieu est en train de dire, je vais bénir un pays, et je vais bénir un peuple qui sait honorer ceux qui les précèdent. Je vais honorer ceux qui respectent les êtres humains, et particulièrement ceux qui nous ont précédés, nos parents. Honore ceux qui sont venus avant toi, spécialement ceux qui t'ont donné la vie. Dieu demande d'honorer ceux qui ont bâti notre vie. C'est une promesse vers l'avenir. C'est une promesse et c'est pas des récompenses, c'est une promesse. Je vais bénir ceux qui suivent, ceux qui écoutent mes préceptes pour une vraie liberté. Honore ceux qui sont venus avant toi. Je trouve très beau comment la manière dont la Bible parle de ces choses-là. La Bible dit que le passé est super important. Et d'autre part, que l'avenir est super important. Et ça se résume à la famille, ce principe. Pour nous, notre passé, c'est nos parents. Et Dieu nous dit, honorez votre passé, honorez vos parents. Et notre avenir, pour ceux qui ont des enfants, c'est aussi concret, ce sont nos enfants. Et c'est comme ça que l'être humain est appelé à se projeter dans l'avenir en honorant ce passé, nos parents. C'est vrai qu'on voit parfois la Bible comme un enseignement qui n'est que rétrograde, que la vie passée, qu'on valorise uniquement le passé. C'est pas cela que Dieu dit, qu'a dit Dieu à Adam et Ève, qu'il a créé, multipliez-vous et remplissez la terre. Ça, c'est le futur, c'est l'avenir. Mais Dieu nous dit qu'on conçoit bien l'avenir, vous serez bénis si vous honorez votre passé. Vous honorez bien votre passé, voyez-vous? Alors je veux pouvoir un futur pour nos enfants et je vais bien le faire si j'ai un bon regard juste sur mon passé. Dieu nous montre par ce commandement, je trouve qu'il s'intéresse profondément à nos relations humaines, aux uns avec les autres. Et ces relations-là commencent avec ceux qui nous ont donné la vie. Deuxième élément, accorde du poids. Accorde du poids à ceux qui t'ont donné la vie. Que ceux qui t'ont donné la vie aient du poids. Honore ton père et ta mère. Ce commandement tombe de sens, hein, si tu te rappelles que tu ne viens pas de nulle part. Quelqu'un t'a mis au monde. Il a fait le sacrifice de te mettre au monde, de t'entretenir, de prendre soin de toi, d'être tes parents, d'avoir une grande responsabilité, qui a investi en temps, en énergie, en sommeil, en désir, qui a mis de côté parfois son ego. Parfois, il y a eu des larmes. Pour ceux qui ont son parent, on le sait, hein. Nos parents ont vécu un certain nombre de choses. Je sais qu'on a tous des histoires différentes. On va en parler au prochain point. Parce qu'on vit dans ce monde brisé. Et nous sommes nous-mêmes brisés par le péché. C'est pas tout le monde qui a eu des parents qui ont pris bien soin d'eux. Et j'en ai conscient. Avec mes parents, il y a déjà quelques années, peut-être que je vous l'ai déjà partagé, mais on a compris bien des difficultés dans notre famille en lien avec les difficultés relationnelles qui existaient dans notre passé, en lien avec mes grands-parents, ça veut dire les parents de mes parents, un mariage malheureux, un suicide d'un grand-père qui a laissé femme et enfant en bas âge, de l'autre côté, une famille qui a rejeté mes parents à cause de la foi. Ça laisse des traces. Mais ce commandement-là parle de reconnaissance. Parce que le sens du mot « honorer », c'est cela. Le verbe, c'est un verbe grec qui dit « kaved », qui veut dire « c'est lourd, pesant ». Et j'ai une citation là derrière. Le mot « kaved », qui signifie en hébreu « lourd » ou « pesant », c'est le mot que l'Ancien Testament utilise pour désigner la gloire de Dieu, le poids de sa majesté divine. Donc honorer, c'est pour ça qu'il y a ce lien avec honorer Dieu. Honorer ses parents, c'est donner du poids à leur position. C'est leur donner la reconnaissance qu'ils méritent pour l'autorité que Dieu leur a donnée. Honorer, c'est respecter, estimer, valoriser, estimer les pères et les mères comme des dons de Dieu. Honorer ses parents, c'est qu'ils ont du poids. C'est bien plus qu'un respect un peu superficiel. Ça implique une reconnaissance profonde, parce qu'ils se sont donnés pour toi. Et c'est littéral hein, ce que Dieu dit ici. Ils ont donné du poids. Il y a du poids dans cette relation. Alors, celui qui avance dans la foi, qui grandit dans la foi en Jésus, et qui ne poursuit pas à essayer de travailler, à se réconcilier, à réfléchir avec ce commandant-là, on a chacun notre histoire. Souvent, on vient à Jésus parce qu'on a une histoire qui est brisée. Parfois, c'est parce que nos rapports avec nos parents sont conflictuels. Mais celui qui ne grandit pas aura des difficultés quelque part à être vraiment reconnaissant pour Dieu, envers Dieu. L'harmonie dans nos relations humaines commence par la reconnaissance. Ça donne du poids. Et tous les autres, d'ailleurs, commandements dans Exode 20 suivent d'une manière ou d'une autre et sont liés à cette reconnaissance. Je reconnais la valeur de l'individu devant moi, alors j'ai pas le droit de lui enlever la vie. Il a été créé à l'image de Dieu, tout comme moi je suis créé à l'image de Dieu. Je vais reconnaître simplement que Dieu m'a aimé, donc je vais aimer les autres autour de moi. Je vais reconnaître qu'ils ont des droits de posséder des choses, et donc du coup, j'ai pas ce droit-là de les arracher. C'est ce que dit la suite des commandements. Mais cette reconnaissance envers notre prochain commence par cette relation avec les parents. Je trouve très intéressant que Jésus-Christ, et Matthieu l'a cité notamment, fait la synthèse de toutes nos relations humaines en disant tout « aime ton prochain comme toi-même ». Je me suis dit « pourquoi Dieu n'a pas mis simplement aime ton prochain comme toi-même dans les 10 commandements. » Ben, 6 commandements en un. Ben, ça aurait été plus court. Il aurait même pu utiliser aussi la totale quand il dit aimez vos ennemis. Ben, voilà, ça regroupe tout, quoi. Aimez vos prochains, aimez les ennemis, ça regroupe tout. Pourquoi on n'a pas cela dans Exode? Ben, je trouve que parce qu'obéir à Dieu, c'est pas abstrait, c'est du concret. Dire d'honorer les parents, c'est du concret. C'est plus que simplement aimer son prochain, comme une vertu. Tout le monde aime ses beaux principes, aimer son prochain, ses grandes phrases, chrétien ou pas d'ailleurs. Et souvent on dit, on aime son prochain comme soi-même, et on met l'accent, d'abord il faut pour nous aimer nous-mêmes. Ça reste pas abstrait quand on dit aimer son prochain, quand on dit aimer ses parents, honorer ses parents. Est-ce qu'ils sont honorables? Ça pose ces questions-là. Hein. Est-ce qu'ils méritent que je les honore? Est-ce qu'ils méritent que je leur accorde autant de poids dans ma vie? Autant de valeur? Mais Dieu veut que nous marchions de manière concrète. Augustin, hein, père de l'Église, a posé cette question. Si quelqu'un n'honore pas ses parents, y a-t-il quelqu'un qui l'épargnera? Si on n'est pas capable d'essayer de travailler à honorer nos parents, est-ce qu'il y a d'autres relations qui vont pas en être impactées? Qui puis-je bien nous honorer? Dieu nous dit que travailler nos relations avec les autres commence par nos parents. Je le disais, hein, je suis conscient des histoires de famille, de ces relations difficiles, conflictuelles. Vous avez des histoires remplies de douleurs dans vos rapports avec vos parents. On n'a pas tous eu des parents aimants, présents. Certains ont eu des parents abusifs. Et vous savez, je trouve que la Bible, elle est réaliste. Parce que vous trouverez tant et tant d'histoires où ces relations avec des parents ont été terribles. La Bible est très lucide sur nos expériences humaines. Et pourtant, elle nous encourage à honorer. Cette relation avec les parents, on est d'accord, c'est pas toujours identique au long des saisons. Dans notre construction de l'individu, la relation parent-enfant, puis enfant-parent, puis tu quittes père et mère pour une nouvelle cellule. Mais la Bible nous dit, cherche à honorer tes parents. Et par ricochet, tes grands-parents. Ça se vit. Dans notre société, dans notre culture, le commandement plus approprié serait « Honore tes fils et tes filles ». On est plus, des fois, en lien avec nos fils et nos filles que notre passé. Mais notre culture a oublié que la bonne manière de donner un avenir à nos enfants, c'est de savoir enseigner à honorer ceux qui nous précèdent. Préparons nos enfants en honorant nos parents. Un défi, mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. Et ce qui est beau dans ce passage, j'aimerais juste le souligner rapidement, Dieu nous dit que père et mère, on est dans l'égalité là, c'est pas patriarcal. Non, Dieu prend le temps de dire « honore père et mère ». On lisait cette semaine en famille, entre midi, on lit les proverbes en ce moment, et il y avait ce beau texte. « Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère ». Ça veut dire la même chose. Il joue avec les synonymes. Deux choses différentes, mais qui disent la même chose. Traite ton père et ta mère de la même manière. C'est intéressant. Intéressant. Une loi parfaite, harmonieuse. Une loi qui nous enseigne que le rapport humain commence par la reconnaissance. Honore ton père et ta mère. Mais maintenant, cette loi parfaite, c'est mon troisième point, elle est donnée dans des cœurs imparfaits, dans un monde imparfait. Ce que Dieu dit est sage et il le savait à qui il l'a donné. Il le donne à Exode, en Exode, hein, vous savez, ce peuple qui a été plus d'une fois rebelle. Une loi parfaite pour des cœurs imparfaits. Regardez ce que nous dit Paul dans la même réflexion. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais n'y renieront ce qui en fait la force. Pardon. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est la même idée. Hein. Ça fait déjà quelques années que Paul nous laisse ça. Socrate, 400 ans avant Jésus-Christ. Les jeunes d'aujourd'hui, ça veut dire plus de 2400 ans, hein, les jeunes aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, ne respectent pas les personnes âgées, disent des bêtises quand ils doivent travailler, les jeunes ne se lèvent pas plus lorsque les adultes entrent dans la pièce. Ils contredisent leurs parents, parlent trop en compagnie, s'empiffrent, s'allongent sur la table et tyrannisent leur aîné. Socrate, 400 ans avant. Jésus-Christ, pareil. On dirait qu'il a lu nos actualités, nos réseaux sociaux. La nature humaine ne change pas. Cette tension entre les générations, où les jeunes cherchent à se défaire des normes et des attentes des plus âgés. Qu'est-ce qu'on fait si nos parents ne sont pas honorables? C'est une réalité, hein. On a un exemple dans la Bible, par exemple Jonathan, avec Saül. Sa loyauté envers David, il savait, son père avait des attitudes qui n'étaient pas normales. Mais il a gardé sa loyauté envers son père, tout en préservant son amitié avec David. Ça n'a pas dû être simple. Il peut y avoir une vraie souffrance. Il y a des situations extrêmes, et je le sais, dans ses liens avec les parents, et il suffit de lire nos médias, parfois nos propres histoires le sont aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là? C'est assez simple de dire honorer ses parents lorsqu'on a des bonnes relations avec nos parents. Lorsqu'ils nous ont bien élevés, lorsqu'ils nous ont aimés, lorsqu'ils nous ont respectés. Mais qu'en est-il de personnes qui ont été adoptées et qui n'ont jamais connu leurs parents biologiques? Qu'en est-il des personnes qui ont eu des parents difficiles, absents ou violents? Qu'en est-il des personnes dont les parents se sont comportés de manière totalement déshonorante? Et il suffit de regarder à nos propres vies. Moi, je réalise en tant que parent, avec des enfants, combien je suis conscient de mes faiblesses, je suis conscient de mes lacunes, combien je peux être irrité par les comportements de mes enfants. On voit ce qu'il y a de mauvais dans notre vie, on peut être un parent plutôt, mais on voit ce qui est pas bien. Ce qui est précieux, c'est que la Bible dit « le père rend compte de son péché, l'enfant rend compte pour son péché ». Mais on lit dans Psaume 27:10 « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Ça, c'est beau. C'est pour cela que je dis que la parole de Dieu est lucide sur l'expérience humaine. Dieu sait que nos relations personnelles avec nos parents peuvent être compliquées. Parce que Dieu nous a créés et il connaît notre nature, il connaît notre cœur. Il connaît l'aspect le plus glorieux de nos vies, mais il connaît aussi l'aspect le plus déchu, dépravé. Alors qu'est-ce qu'on fait si nos prochains ne sont pas honorables? Alors qu'ils devraient avoir du poids à mes yeux, qu'ils devraient être honorés? L'Éternel m'accueillera. Jésus a dit, vous connaissez aussi, hein, je vous l'ai dit en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Alors je crois, oui, que si notre histoire est difficile, que tu viens d'un foyer qui a été brisé, je crois que Dieu peut faire des choses extraordinaires, et c'est ce que Jésus dit dans ce Marc 10. Lorsque tu découvres l'évangile, tu intègres une famille. On intègre une famille, la famille de Dieu, l'Église, et tu découvres toute autre sorte d'autres relations avec des pères et des mères dans la foi, avec des frères et des sœurs dans la foi. Les relations naturelles sont peut-être chaotiques, peut-être même inexistantes, mais il y a là, dans l'Église, des personnes, des gens plus vieux que toi, qui peuvent m'aimer, qui peuvent prendre soin de toi, qui peuvent t'entourer, qui peuvent s'investir dans ta vie de manière altruiste dans ta vie. Fais confiance que Dieu peut travailler, nous réconcilier avec ces relations-là des parents. Peut-être que tu pourras un jour l'appliquer dans ta relation avec tes parents naturels. La Bible est claire. Tes parents restent tes parents jusqu'à la fin. Mais je crois que ce passage par l'Église où on trouve cet accueil, cet amour, cette affection que tu n'as peut-être pas vécu dans ta famille naturelle. Jésus nous comprend, Jésus nous connaît. Et Jésus nous apprend lui-même ce qu'un fils honore son père. Ensemble, on peut découvrir l'Évangile qui restaure, qui répare, sa grâce, qui vient ressourcer ce qui a été abîmé. Et tranquillement, Dieu veut nous instruire lorsqu'on se place sous la parole, lorsqu'on se place alimenté par cette relation fraternelle, sincère, les uns avec les autres, soumis au Saint-Esprit. Et je crois que mes relations avec mes proches peuvent être transformées par mon expérience de l'Évangile. Alors comment honorer ? Tim Challis, un pasteur que j'apprécie beaucoup, pasteur et blogueur, voici, il nous dit 6 manières d'honorer ses parents, et je voudrais peut-être terminer avec ça. Il commence avec ce premier point, pardonne-leur. Aucun parent, ni enfant, n'est parfait. C'est peut-être là que ça doit commencer, avec l'Évangile. Tous les parents ont été bien en deçà des attentes de leurs enfants, et probablement même au-deçà de leurs propres attentes. Nos parents ont péché contre nous, ils ont pris des décisions imprudentes, ils ont des attentes irréalistes, ils ont fait des choses et dit des choses qui nous ont profondément blessés. Mais l'Évangile nous encourage à pardonner parce que le pardon est possible, parce que nous servons et imitons notre Seigneur. Dans la Bible, on voit que Jésus a pardonné à ceux qui l'avaient blessé. Au moment où il a été cloué, il a crié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je crois que ce cri-là peut être le nôtre vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés. Qui sommes-nous pour retenir le pardon de nos parents ? Honorons nos parents, peut-être en leur apportant grâce et pardon. Deuxième élément, pardon, qu'il a souligné, donc pardonner. Deuxième élément, parler d'eux en bien. Arrêtons parfois de dire du mal. Je vois que parfois on retient que le négatif. On vit dans une époque où critiquer, c'est devenu la norme. Mais la Bible nous rappelle qu'on doit respecter les autorités dont les parents sont les premiers, que Dieu a placées au-dessus de nous. Nos mots ont un vrai pouvoir, pour l'honneur ou pour le déshonneur. Nous devons parler bien d'eux pendant qu'ils sont encore en vie, si on a la possibilité, et peut-être parler bien d'eux après leur mort. Pour dire du bien d'eux à nos frères et sœurs, à nos conjoints, à nos enfants, nous devons en dire peut-être du bien dans l'Église. Il faut montrer ce respect, cet honneur que nous manifestons dans cette autorité que Dieu a placée au-dessus de nous. Et peut-être qu'aux yeux de notre société, on devrait montrer beaucoup plus cela. N'oublions pas, l'honneur se reflète aussi dans la manière dont on parle des autres. Et on peut être en désaccord. Et on peut être, même en leur absence, on peut néanmoins parler en bien. Troisième élément, manifester, montrer votre estime en public et en privé. Les parents aiment voir l'impact qu'ils ont sur leurs enfants, comme nous sommes le reflet de leur force, de leur valeur. On peut dire des choses, tu sais ce que j'ai appris sur ce sujet-là, sur la gestion de l'argent, c'est grâce à toi papa, etc. On a plein peut-être d'idées, de trucs qui nous ont été montrés, donnés, apportés par nos parents. Ben relevons-le. Et je crois que ça soulage, ça nous aide aussi à voir positivement toutes ces choses-là en lien avec ceux qui nous ont précédés, nos parents. Quatrième élément, respecter, chercher leur sagesse. Pour ceux qui ont encore des parents, nous sommes appelés à demander leur conseil, à prendre les devants. En vieillissant, on le sait, dans notre société, on est mis de côté. Notre culture ne valorise pas les plus âgés. Mais l'Église devrait être un lieu où on valorise les paroles des aînés, où on respecte. Faisons appel à la sagesse de nos aînés. Écoutons ceux qui ont l'expérience de la vie. C'est bon de chercher leur avis, leur conseil, quand on doit prendre des décisions importantes. Dans certaines cultures, c'est attendu. L'accord des parents, enfin, il y a plein de choses, mais de chez nous. Quoi qu'il en soit, honorer nos parents quand on cherche de l'aide. Même si on n'est pas toujours d'accord, qu'on ne suit pas toujours leurs conseils, mais néanmoins, on a la possibilité de le faire. Cinquième élément que nous dit Tim Chalice, assistez-les. Quand on est jeune, nos parents nous élèvent, et voilà, elles sont à l'œuvre dans notre indépendance, mais avec l'âge, ils perdent leur force et c'est à nous de prendre le relais. Honorer nos parents, c'est aussi leur montrer qu'on ne les abandonnera pas en vieillissant, qu'on va s'occuper d'eux, qu'on va être auprès d'eux. C'est notre responsabilité et notre joie. Aujourd'hui, trop de personnes âgées dans notre monde vivent seules. Les chrétiens devraient montrer leur exemple. Sixième élément, subvenir à leurs besoins. Paul le dit dans 1 Timothée, que les chrétiens devraient soutenir leurs parents. Et on pourrait rajouter, septièmement, honorer leur mémoire, lorsque le Seigneur les a cherchés. Dieu nous appelle à être des gens qui respectent sa souveraineté, en respectant, en honorant les parents qu'il a tenus à nous donner. Or c'est vrai, je crois qu'on est d'accord, il déborde le cadre simplement de notre relation avec nos parents. Il déborde dans toutes les relations, notamment celles avec l'autorité. Ma prière est que le Saint-Esprit agisse, qu'il nous encourage à porter un regard nouveau, renouvelé, sur nos liens, sur nos relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. À chaque saison de vie, Dieu nous confie d'autres relations, d'une autre façon. Mais honorer nos parents fait partie de notre soumission à Dieu, de notre soumission à Christ. Et cela devrait conduire à un impact envers nos prochains. Ce principe d'honorer nos parents, je le disais tout à l'heure, agit et soutient tous les autres prochains. Parents-enfants, enfants-parents, petits-enfants-grands-parents, petits-enfants vers les grands-parents, etc. Ça se vit et ça s'enseigne. Assumons le rôle que Dieu nous a attribué dans la saison de vie qui sont les nôtres. Nous avons un Père céleste à honorer et toute la famille de Dieu. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Chaque génération. Grands-parents, on peut montrer aussi à nos petits-enfants comment honorer nos enfants. On a tous en tête cette illustration des grands-parents qui donnent des friandises à leurs enfants. Et ils leur disent, tu le diras pas à tes parents. Et qu'est-ce qu'on est en train de montrer? Qu'un mensonge, c'est pas si grave. Qu'on peut désobéir à nos parents. Que c'est pas tant un problème. Ça a l'air anodin, mais en fait, est-ce que on est en train d'honorer les parents lorsqu'on dit, c'est pas très grave si tu le dis pas? Pas simple, hein? Rends gloire, rends l'honneur à qui tu dois l'honneur. Plus je lis et médite les Écritures, plus je conclus que Dieu demande des choses qui peuvent paraître impossibles à son peuple. Mais en fait, il demande des choses impossibles sans sa présence. Des choses impossibles sans sa sagesse, sans sa grâce, sans son pouvoir, sans son autorité. Honorer les parents peut sembler impossible, mais l'appel reste là, de la part de Dieu, honorer. Pour beaucoup peut-être d'entre nous, c'est le type de défi le plus grand. Mais c'est des défis où nous aurons toujours à nouveau désespérément besoin de Dieu et de sa grâce, de son amour, de sa patience, de son soutien. Qu'on soit parents, grands-parents ou enfants. Nous sommes appelés à montrer par nos relations l'attention d'une relation bien plus incroyable, parfaite et tellement sécurisée en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.